Chapitre 13. Sur ma demande, M. Saint-Audon vint me voir le surlendemain dans la matinée. M. Dubarral ayant dû, le jour précédent, recevoir un gros personnage, le salon était dans tous ses atours, c'est-à-dire que, les housses enlevées, les meubles superbes avaient repris leur arrogance qui aurait eu le don, ce jour-là, de m'agacer particulièrement si Laurette, la veille, n'avait apporté des fleurs de la campagne et mis une note nouvelle dans ce cadre ingrat. J'étais décidé à mener Saint-Audon tambour battant et je le guettais impatiemment. Il entra avec l'air aimable, assuré, quoique ému, d'un homme qui s'attend à une réponse favorable. Lui-même, quoique au-dessus de la vanité puérile, n'échappait point à la satisfaction d'être le vainqueur d'une femme qu'il aimait par convenance, c'est-à-dire pas du tout. Ainsi est la nature humaine, mais il faut se résigner. Seulement, je décidai qu'il me paierait, avec le reste, ce petit sentiment, sans réfléchir que, appelé près de moi, il pouvait se croire des droits de conquérant. Mais je n'admettais pas un fait en opposition si flagrante avec ses sentiments secrets et véritables. Puis nous nous connaissions assez pour que je conduisisse ma petite affaire à grande guide. Retirant prestement ma main, quand je lui surpris quelques velléités de la presser d'une façon trop expressive, je parus, une fois assise, frappée de mutisme et l'obligeai ainsi à parler le premier. « Vous m'avez convoqué, mademoiselle, j'accours plein d'espoir. »« Plein d'espoir, répétai-je comme dans un rêve. En êtes-vous sûre ?»« Si j'en suis sûre, vous en doutez, mademoiselle. Que voulez-vous dire ?»« Je ne doute nullement, puisque je suis certaine du contraire, puisque vous marchez au supplice comme une victime courageuse. » Un vif mécontentement se mêlait à son air étonné. « Les roses étaient bien belles, continuai-je tranquillement, et le billet bien absurde. » À ces mots imprévus, son expression fut si comique que j'eus beaucoup de peine à réprimer un joyeux éclat de rire. Il offrait l'image d'un malheureux figé par la stupeur. « Comment, qu'est-ce à dire? Pourquoi riez-vous? Car vous riez, mademoiselle. Allez consoler Noël, n'êtes-vous pas fait l'un pour l'autre? Honte à vous de l'avoir abandonné en pensée. » « Se peut-il que vous ayez lu ma lettre ?» L'entêté refusait encore de croire à l'évidence. Mais oui, elle m'eût paru fort bien troussée si je ne l'avais jugée ridicule. « Ridicule, mademoiselle, » dit-il vivement, car le mot piquant relevait ses forces expirantes. « Ridicule, monsieur, et franchement, avouez que je ne devais pas la juger autrement. Vous aimez Noël, elle vous aime. » Elle-même, quelle certitude en avez-vous? Je l'ai. Que cela vous suffise et confirme vos propres présomptions. Et vous vous imaginez qu'il est bien de sacrifier tout le monde à un faux point d'honneur? Sacrifier, faux point d'honneur, releva-t-il avec une nuance de reproche. Si vous pensez ainsi, c'est que je me suis bien trompé en croyant vous inspirer de la sympathie ou simplement de l'estime. « Mais, monsieur, répliquai-je, en réprimant le mouvement qui me portait à répondre avec trop de vivacité, ce qui eût été une grande maladresse, pourquoi supposiez-vous que la sympathie, ou, si vous préférez, une amitié récente, se transformait si facilement? À mon avis, vous avez erré à l'égard de Noël et de moi-même. Toutefois, je vous suis très obligé d'avoir eu l'idée généreuse, mais extraordinaire, de me donner par reconnaissance un appui et un foyer. » Ce discours net, posé, car je parlais avec le plus grand calme, lui parut mélangé de miel et de vinaigre. Mais, nécessairement, le miel l'emportait, car chaque chose reprenait sa place véritable. Toute son attitude disait « Si je m'attendais à cela… » Redevenu maître de lui-même, il était trop bien élevé pour exprimer tout haut une impression sous-entendant qu'il avait compté sur mes sentiments, trop fin pour ne pas avaler comme une tisane amère mes franches déclarations. « Mademoiselle, vous êtes la franchise même, une franchise un peu excessive, un peu brusque peut-être, mais qui ne permet aucune équivoque. » Avec tact, il prononçait le mot que, précisément, il fallait dire. « Équivoque, oui, qui contenait sur un autre terrain une vérité plus immense que lui-même ne le supposait. « Si je suis trop franche, excusez-moi, mais j'avais le droit, avouez-le, de parler librement. » « Je m'incline, mademoiselle, et conviens que vous avez raison, jusqu'à un certain point. » Le point m'était indifférent. L'important avait été d'abattre sa superbe et de détruire une illusion. Malgré lui, une lueur joyeuse brillait dans ses yeux. Il était délivré de l'héroïsme, cet incommode ou terrible compagnon que je venais de lancer irrévérencieusement par-dessus les toits. « Nous serons quand même toujours amis, » me dit-il en souriant. « Pourquoi quand même ? Je pense à l'absurdité si bien flagellée par vous, mademoiselle. » « L'absurdité ne manquait pas de beauté, » dis-je en riant, « et le « quand même » ouvre la voie à votre bonheur futur. »« Que sait-on ? J'ai cru quelquefois que Noël. Mais il est facile de se tromper. » Noël tient exactement le même propos en parlant de votre amour soupçonné. « Vraiment ? Vous en êtes sûr ?»« Je l'ai entendu. » Il s'était levé et je souhaitais qu'il partît au plus vite, car l'entretien, en dérivant sur Noël, le mettait, à cause de moi, dans une position pénible. Il hésitait à me questionner et s'y décida. « Noël connaît-elle le nom de la femme que dans ma lettre j'appelais mon sauveur, avec raison ?»« Elle ne l'avoue pas, mais elle le connaît. Cet après-midi, j'irai la voir et lui parlerai ouvertement. » Pourquoi le lui dire ? Elle l'a deviné, j'en suis sûre, et ce n'était pas bien difficile, malgré sa confiance illimitée dans l'expérience et les bons conseils de M. Dubarral. Bien que vous ne fussiez pas explicite, elle n'a pu voir dans votre lettre qu'une allusion au danger évité d'une désastreuse spéculation. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour penser que j'étais en jeu. Mais que lui avez-vous dit après l'avoir lu ? Tout le mal possible de vous. « C'était beaucoup, » dit-il avec un demi-sourire. « Et elle ?»« Oh, elle, elle vous admirait. Quand je suis partie, elle pleurait sur son rêve envolé. »« Elle pleurait ? » s'écria-t-il avec ravissement. « Et cet après-midi, dites-vous, vous la verrez ?»« Oui, je remettrai tout au point, j'y suis décidée. »« Et moi ?»« Venez dîner ce soir aux Iris, je la préviendrai. » Nous nous donnâmes une cordiale poignée de main et il partit avec des ailes. Moi, j'éprouvais un soulagement inexprimable. Était-ce parce que mes incertitudes avaient pris fin ou parce que je venais de remplir mon devoir? Ou bien avais-je été longtemps subjugué par une imagination qui cessait ses discours insidieux? Cette dernière hypothèse cherchait à s'imposer à mon jugement, car à l'arrière-plan de mes idées, résonnait mon nom prononcé l'avant-veille avec une émotion contenue qui avait envahi mon cœur comme une joie, en même temps délicate, douce et profonde. Il se passe des choses au fond de l'âme que nous ne pouvons ni prévoir ni diriger. Depuis quelques heures, je méditais ce mot de Madame de Staël, consigné dans le livre où j'écrivais des pensées cueillies un peu partout, à tort et à travers. « Ah, nous avons bien besoin des autres, de leur expérience, de leur finesse, pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. » Noël, à qui j'avais téléphoné pour m'annoncer, se promenait en m'attendant dans une allée entièrement bordée, au printemps, d'iris de toutes les couleurs, fleurs préférées de M. Féval. Quelques retardataires, avec leurs pétales repliés comme un capuchon, retenaient l'attention de mon ami. Mais, au bruit de mes pas, elle se retourna vivement et me dévisagea avec inquiétude. Sans prendre quatre chemins, je me jetai à son cou en m'écriant « Ne jouons pas au plus fin. Vous savez qui est Mademoiselle de Coëtlogon, moins l'amour pour le chevalier absurde. »« Que voulez-vous dire, Rita ? Monsieur Saint-Audon viendra ce soir, chérie. En attendant, écoutez. » Je l'entraînai sous une charmille où des paons magnifiques sommeillaient. L'un d'eux, se réveillant à notre approche, descendit de sa branche et se promena gravement devant nous en balayant le sable de sa queue splendide. Le parfum de fleurs variées nous arrivait par bouffées, un calme délicieux nous environnait et mon esprit capricieux songea à ses cours d'amour ou ceux de beaux ombrages, la poésie inspirée des joutes courtoises. C'était bien l'amour qui nous frôlait, et nous n'avions pas besoin de ménestrels pour chanter la poésie dont chaque chose autour de nous était la vivante expression. Eh bien, Rita ! Eh bien, Noël, voilà ! Nous nous étions assises sur un banc de pierre et je lui contais les fêtes dans le détail, moins un. Le vagabondage de mon imagination devait rester secret. De temps en temps, elle m'embrassait. « Chère Rita, vous ne deviez jamais parler de la lettre ?» Avec lui, c'était différent, même nécessaire. « Vous croyez ? Et vous, Noël, vous ne croyez pas ? Je crois que vous avez agi pour le mieux. » Je compris que, d'après elle, le plus simple eût été de refuser la demande en mariage de M. Saint-Audon sans m'immiscer dans l'incident qu'il avait soulevé entre lui et mon ami. Cette idée élémentaire ne m'avait pas échappé, mais ma conduite s'expliquait par la pensée qu'en agissant autrement, Saint-Audon, empereur obstiné, aurait pu se cramponner à son idée. Si j'avais évité de prendre le taureau par les cornes, il n'aurait jamais su avec quelle facilité je repoussais le mariage que sa générosité me proposait. Certainement, il aurait appris, un jour, par sa femme, que j'avais lu la lettre et cru à des regrets, si mon air, mon sourire, ne lui avaient prouvé le contraire. Mon stupide émoi, quand, souriant et malheureux, il était venu me soumettre son romanesque projet, pesait encore sur ma fierté. Je tremblais, je me bouleversais parfois moi-même, en pensant que j'aurais pu acquiescer sans délai à son prétendu désir. Enfin, justice à me rendre, dans ces jours difficiles, je n'avais pas entièrement perdu la tête et Balladier, avec sa sincérité, avait joué, sans le savoir, un rôle capital. Bah, Noël, en brisant les vitres, j'ai coupé court à tout. Qu'importe la façon, bonne ou mauvaise, dont je m'y suis prise. Tout est à sa place maintenant. Et vous, chère petite Rita, s'écria-t-elle, quand vous verrai-je heureuse ? « Mon Dieu, dis-je gaiement, il ne faut jamais désespérer de rien. Cette devise réconfortante en vaut une autre. » Mais mon inquiétude était cuisante à l'idée que M. et Mme Féval, ayant lu la lettre, connaissaient le nom de la femme dont parlait M. Saint-Audon. Cette idée m'inspirait tant d'éloignement que j'hésitais à questionner mon amie, trop fine pour ne pas deviner mon angoisse et la dissiper. « Chère Rita, tout ceci restera entre nous. » Votre mère ne sait rien encore et ne saura rien. Deux jours seulement, Rita, que ces événements, si importants pour nous, sont arrivés. Deux jours seulement, répétai-je avec étonnement. Oui, n'est-ce pas ? Les jours semblent être multipliés. Je me suis tue parce que je réfléchissais que si quelque chose, l'imprévu par exemple, modifiait... Vous comprenez ? « Oui, oui, je comprends. C'eût été pénible pour vous d'être deviné par d'autres que par moi. Très pénible, et je vous remercie d'y avoir pensé. Mais, cher Noël, avouez-le, l'imprévu pour vous, c'était moi. »« Sans doute, répondit-elle en posant sa main sur mes yeux pour que je ne visse pas sa rougeur. » Sa discrète prudence m'enlevait un poids bien lourd. « Déchirez la lettre, Noël, voulez-vous ? À l'instant, devant vous. » Nous courûmes dans son salon et la belle missive, cause de tant de soucis intimes, fut réduite à rien. Elle ne demeura que dans ma mémoire fidèle. Voilà un secret enseveli entre nous trois. « À présent, Noël, laissez-moi vous demander de n'être pas trop sévère pour Monsieur du Barral. » « Sévère ? Mais pourquoi voulez-vous que je sois sévère ? Il a été trompé lui-même, puisqu'il a perdu. »« Très juste, dis-je simplement, maudissant en moi-même mon insigne maladresse. » Monsieur Dubarral a parlé de sa déconvenue à papa en se félicitant que René n'eût pas poursuivi son dessein. C'est un homme très droit. J'admirais comment se tient ferme une réputation perchée sur des échafaudages. De notre côté, je savais que M. Saint-Audon, fidèle à ses promesses, serait d'autant plus discret que ses yeux ne s'étaient jamais tout à fait ouverts. Tranquillisés, mes vagues remords se dissipèrent entièrement. « René, m'avez-vous dit, Rita, viens ce soir ?»« Pour dîner. Moi, je me sauve. Vous me raconterez plus tard l'entrevue que je prévois. » Et je repris le chemin du logis. Mais par un enchantement inexplicable, mon bel entrain avait disparu. Les arbres m'impatientaient avec leur perpétuel chuchotement et la brise ne me paraissait plus du tout caressante. Sans ma funeste imagination, aurais-je passé près du bonheur? N'aurais-je pas su discipliner les premiers mouvements de ma sensibilité? J'eus beaucoup de peine à remonter sur ma bête. Elle était singulièrement rétive, détruisant d'un bon coup de pied mes bâtisses morales. Pauvre baladier, je comprenais infiniment mieux sa souffrance. En arrivant à Kercado dans cette disposition d'esprit, je tombai sur M. du Barral. Il descendait de l'automobile et me pria de le rejoindre dans son cabinet. « Dans un petit quart d'heure, venez chez moi, j'ai à vous parler. » Ce petit quart d'heure était un répit qui me permettait de me ressaisir et de marcher courageusement au danger. M. du Barral, lorsque j'entrai chez lui, se promenait de long en large, son éternelle cigarette à la bouche. Il ne paraissait ni méchant ni désagréable et je me rassurai en me répétant tout bas que, dans les graves circonstances, il s'agit de tenir son sang-froid d'une main énergique. Sans l'ombre d'un préambule, le banquier partit en guerre. « Vous aviez parlé à M. Saint-Audon, c'est par vous, par vos indiscrétions, qu'il a été mis en éveil ?»« Oui, je l'ai sauvé. »« Sauvé ? Pourquoi sauvé ? N'étais-je pas là pour le prévenir, si je jugeais qu'il était bien de le faire ? D'où vous est venue cette idée ?»« Des propos que vous me permettiez d'entendre. » »« Et alors, parce que je vous donnais ma confiance, vous la trahissiez ?» Pas précisément, malgré les reproches que je m'adressais, dis-je d'une voix étranglée. Vous ne trahissiez pas précisément, expliquez-vous. Vous étiez prévenu que j'entendais quelquefois des conversations qui ne me regardaient pas. Seulement, vous me considériez comme la dernière des sottes. Ah, sotte ? Ah oui, je crois bien, sotte ! Il se promena un instant sans parler. « Vous avez toujours été bien traitée chez moi, Rita. »« Certes, et je vous en suis si reconnaissante. »« Cela se voit. »« Jamais, entendez bien, jamais je n'ai mal parlé de vous. »« J'ai simplement affirmé que vous vous trompiez et l'opinion favorable de M. Saint-Audon sur vous n'a pas varié. »« En vérité. »« Mais vous pensiez autrement ?»« C'est que... » Je m'arrêtai à temps en regardant avec détresse les dessins du tapis. Puis, levant timidement les yeux, je vis le banquier arrêté devant moi. Jamais sa ronde figure ne m'avait paru aussi ronde. Mais elle n'était pas en colère, cette figure, et ce fut avec un demi-sourire qu'il me dit « Une femme qui aime n'est jamais aussi sotte qu'on l'imagine. » Blessé au vif, je répondis d'un ton révolté « Je ne suis pas une femme qui aime, dans le sens que vous donnez à ce mot, mais j'ai de l'amitié pour ceux qui ont été bons pour moi, pour vous aussi, » ajoutai-je spontanément. « Pour moi aussi ? Ah, très bien. Si je vous voyais en danger et que je puisse aider à vous sauver, je le ferai tout de suite, sans hésiter, même au détriment de mon repos. » Il continua son agaçante promenade en envoyant au ciel, c'est-à-dire au plafond, des nuages de fumée. La cigarette terminée, il s'assit devant moi. Un archonte qui allait juger. « Petite Rita, je me trompe parfois, c'est vrai, surtout quand il s'agit de connaître ou d'apprécier ces étranges phénomènes qui s'appellent femmes. »« Oh, phénomène ! » répétai-je consterné. « Échevaux embrouillés, si vous préférez, et je n'en veux plus chez moi. »« Quand faut-il partir ? Demain, aujourd'hui ? » demandai-je en me levant vivement. « N'allons pas si vite, asseyez-vous. » Il réfléchissait et le temps me paraissait bien long. « Vous avez donc soupçonné Baladier d'indélicatesse ?»« Laissons ces questions brûlantes, » m'écriai-je. « Il m'a fait une jolie scène, vraiment. » Et devant vous. Est-ce ma faute ? J'étais si confuse, si désolée. Ce marjolet m'a extorqué une signature qui est un danger pour moi, quoiqu'elle n'ait pas toute la valeur qu'il lui attribue. Mais enfin, une signature dans de telles conditions est toujours une épine. C'est joli, un garçon qui avait toute ma confiance. Ainsi sont les hommes, pas beaux. Pouvait-il demeurer dans la crainte d'être un jour compromis, lui si bon, si bon, dis-je les larmes aux yeux. Vous le défendez ? Oui, je le défends énergiquement. Jamais je ne verrai un homme meilleur. Il a quitté ma maison et vous ne le reverrez pas, chez moi du moins. Je le sais, dis-je d'un ton pitoyable. Il haussa les sourcils avec une certaine pitié indulgente. Quand j'affirmais, dit-il entre ses dents, que la femme est l'embrouillamini personnifiée. De mon côté, je méditais. En retirant l'épine, en rendant la paix à M. Dubarral, je m'acquittais en partie de ses bontés envers moi. Son jugement et sa conscience étaient oblitérés, c'est vrai, mais je lui avais des obligations. Le mal redouté s'était évanoui, il aimait sa fille, avec quelle tendresse! Aussitôt l'image de Laurette évoquée, les foudres vengeresses de Baladier disparurent au fond de mon horizon. Si vous allez sous le grand cèdre, dis-je, vous trouverez encore les parcelles du papier que, dans un geste magnanime, M. Baladier a déchiré. Comment ? Il a détruit son fameux document ? Oui, devant moi. Alors, pourquoi faire tant d'embarras ? C'est vous, Rita, qui l'avez poussé à ce geste, magnanime, dites-vous, celui d'un sot qui a fait une sottise. Non, ce n'est pas moi, c'est le souvenir de cette charmante, innocente Laurette. Il n'a pas voulu qu'une ombre, même ignorée, s'étendît sur cette jolie fleur. Monsieur Dubarral rougit, quelque chose de la confusion éprouvée lorsque sa fille avait interrompu la discussion, passa sur ses traits et me toucha. « Je comprends, dit-il sèchement, la vue de Laurette calmerait les plus grandes fureurs. Et les fureurs de Baladier n'avaient pas le sens commun. » Pourtant, c'est un garçon intelligent. En parlant avec tant d'injustice, il pensait les blessures de son orgueil. Cependant, Rita, reprit-il, je crois toujours que vous n'êtes pas étrangère à la décision subite de ce sot personnage. Mes hésitations coupables, les résultats pour mon propre cœur d'un beau mouvement, me firent sourire en me remémorant les rôles si bien renversés puisque Baladier m'avait inconsciemment indiqué la bonne route. Vous riez, je crois. Qui connaît les nuances du cœur humain, m'écriai-je. Qui connaît même le cœur humain sans nuances. Je suis abasourdi. Monsieur Dubarral eut l'air amusé et me dit après un silence. Après tout, n'en parlons plus, c'est fini. Restez si vous voulez. Non, je préfère m'en aller. Ce changement à vue n'était pas celui d'un homme prudent. Ma présence lui rappelait un fait humiliant, à mes yeux du moins, car pour lui, il n'avait pas pris au grand tragique l'agression de Baladier. La signature l'ennuyait. À tous les points de vue, il n'en pouvait être autrement, mais déjà je comprenais que, selon les circonstances, il saurait mettre en valeur la générosité qu'il avait déterminée, avec garantie sérieuse pour Baladier, à prendre toutes les responsabilités dans une affaire dont l'insuccès déroutait ses prévisions optimistes. Toutefois, si Baladier avait trop préjugé de la concession obtenue, la grandeur de son désintéressement demeurait intangible. Vous ferez ce que vous voudrez, Rita. Je n'ai sur vous aucun droit, à part celui d'un amical intérêt. Je vous demande seulement de ne pas me quitter avant les vacances, c'est-à-dire le 25 juillet, dans 4 semaines. De grand cœur. Pendant votre séjour en Normandie, vous réfléchirez et ma porte vous sera grande ouverte si vous vous décidez à revenir, mais je crois bien que d'ici là... La phrase demeura inachevée. Que tout le monde est bon pour moi, dis-je avec une vive émotion. Merci, merci. Il m'eût été impossible de ne pas lui tendre la main. Il la prit, parut la trouver si petite que c'eût été dommage de la briser et lui donna amicalement des petits coups répétés. Mais je savais bien que je ne reviendrais pas. En dehors du malaise, de l'ennui que m'apportait l'atmosphère des banques et des chiffres, je me disais que M. Dubarral avait été blessé. Il était assez occupé, il est vrai, pour que tous ces petits événements, très gros pour moi, lui devinssent indifférents, mais une blessure d'amour-propre a, paraît-il, des racines bien longues, et quoiqu'il parût ne pas s'en soucier, les racines pourraient avoir des rejets qui empoisonneraient nos rapports mutuels. C'est ainsi que je raisonnais longtemps en me demandant quel avenir m'attendait.